VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, bienvenue. Il est 11h en temps universel. L'armée nigérienne a retrouvé 76 écoliers portés disparus et récupéré les dépouilles de deux autres. Plusieurs heures après l'attaque d'un village attribué aux militants de Boko Haram, l'opération de secours a été confirmée à l'agence Reuters par trois parents, un habitant du village et des membres du gouvernement. 111 écoliers manquaient à l'appel deux jours après l'attaque d'une école de filles dans le village de Dapachi, dans l'état de Yobe et dans le nord du pays, ravivant ainsi la menace d'un kidnapping de masse comme celui des lycéens de Chibok en 2014. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement se réunissent demain à Bruxelles pour renforcer leur soutien politique et financer le G5 Sahel qui lutte contre la menace persistante des groupes djihadistes dans la région sahélienne. Anne Albesson.
Pour cette conférence de haut niveau, le président français Emmanuel Macron, très engagé sur le dossier, et la chancelière allemande Angela Merkel seront aux côtés des chefs d'État des pays du G5 Sahel, Mali, Niger, Burkina Faso, Mauritanie et Tchad. Au total, cette conférence des donateurs rassemblera 18 dirigeants européens présents à Bruxelles pour un sommet informel de l'Union européenne programmé l'après-midi, et une dizaine de ministres des Affaires étrangères, dont ceux du Sénégal, d'Arabie Saoudite, de Tunisie, du Maroc ou de Norvège. Après avoir été dispersés lors de l'intervention française en 2013, les factions djihadistes ont trouvé un nouveau souffle dans le nord et le centre du Mali, malgré la présence de 12 000 casques bleus de l'ONU et de la force française Barkhane, qui mobilise 4 000 hommes dans la région. Multipliant les attaques contre ces forces et l'armée malienne, les groupes djihadistes ont étendu en 2017 leurs actions au centre et au sud du Mali, à la frontière avec le Niger et le Burkina Faso, qui sont aussi régulièrement touchés.
Au Togo, le dialogue ouvert lundi à Lomé entre le pouvoir et l'opposition, après 6 mois de crise politique, a connu ses premières avancées avec la libération de 45 personnes arrêtées lors des marches contre le pouvoir, l'une des conditions de l'opposition. Ce dialogue devait notamment aborder le rétablissement de la constitution de 1992, qui prévoyait un maximum de 2 mandats présidentiels, une transition politique et des réformes électorales. Pour en parler, John Nidon s'est entretenu avec Nathaniel Olympio. Il est le président du Parti des Togolais et membre de la coalition des 14 partis de l'opposition de passage à Washington.
C'est une nouvelle qui est réjouissante, mais il faut de suite noter que ce n'est qu'une partie des personnes qui ont été libérées et que nous devons avoir l'intégralité des personnes emprisonnées qui doivent retrouver leur liberté.
Et qu'est-ce que vous comptez faire pour cela?
Je pense que la démarche est de continuer d'insister et de se faire comprendre et que le régime comprenne qu'il est dans l'intérêt de tout le monde que les droits de l'homme soient respectés et que les citoyens soient respectés dans leurs droits. Et je pense que cela a payé pour les 45 premières personnes et il faut poursuivre pour les autres aussi.
Vous réclamez également le retour à la constitution de 1992.
Et ce que nous demandons, c'est le retour de la constitution de 1992 dans sa version originelle. Et bien entendu, comme tout texte de loi, la constitution a des implications et il faut que nous tenions compte des implications qui en découlent. C'est-à-dire la limitation du mandat à 2 et que nul ne peut faire plus de 2 mandats.
L'actuel président peut-il être candidat en 2020, à votre avis?
Le peuple togolais demande qu'il puisse quitter le pouvoir immédiatement. Je pense que le bon sens commande que l'on puisse respecter la voix du peuple et il est complètement inimaginable que l'on puisse envisager que le chef de l'État actuel puisse encore être présent dans une élection présidentielle. Ce serait un non-sens qui n'a pas lieu d'être.
Vous êtes allé au département d'État américain à Washington. Qui êtes-vous allé voir là-bas et pourquoi?
Nous avons eu l'honneur d'être reçus par M. Robert Scott, qui est l'adjoint au secrétaire d'État. Il est en charge des affaires africaines et qui nous a prêté une oreille attentive. Nous avons eu l'opportunité de lui expliquer la situation togolaise et surtout de faire comprendre que après 50 années d'exercice d'un pouvoir absolu, il est temps de trouver une solution pacifique qui n'humilie personne, mais qui procure au peuple togolais ce qu'il est en droit d'attendre. Et nous avons eu une oreille attentive et ça a été fructueux comme séance de travail.
Nathaniel Olympio, président du Parti des Togolais et membre de la coalition des 14 partis de l'opposition de passage à Washington. En RDC, un mouvement musulman qui se dit proche du parti présidentiel appelle à une marche dimanche pour contrer la manifestation anti-Kabila appelée par les catholiques. Les détails avec Elie Sango.
L'Alliance des Kabilistes musulmans, AKAM-PPRD, c'est le nom du groupe. Il appelle à une marche pacifique dimanche à Kinshasa, en même temps que celle organisée par des opposants catholiques au président Joseph Kabila. Les groupes n'est officiellement reconnu ni par les partis présidentiels, ni par la communauté musulmane de la RDC, minoritaire, avec environ 10% de la population. Les groupes disent vouloir inviter les chrétiens à se préparer à gagner des élections et non à créer des troubles dans le pays, a affirmé un des signataires de la lettre, Mondo Moussa, cité par l'AFP. Les catholiques démentent au président Kabila, dont le deuxième et dernier mandat s'est achevé en décembre 2016, de déclarer publiquement qu'il ne va pas se représenter à la présidentielle prévue le 23 décembre 2018. Les autorités ont interdit toute manifestation publique depuis novembre. Les deux dernières marches à Kinshasa ont été sévèrement réprimées.
En Israël, les premières arrestations en vue d'un plan controversé donnant aux migrants illégaux le choix entre le départ du pays et la prison ont commencé. Sept premiers migrants érythréens qui étaient détenus au centre de rétention de Lot ont été transférés mardi en prison. Les migrants ont commencé une grève de la faim. Ils disent préférer la prison en Israël à l'expulsion, mais l'espoir n'est pas perdu pour les migrants dans leur totalité. Les arrestations ne concernent que les hommes célibataires. Horace Hilbert, journaliste en Israël.
L'avancée en termes de protection de ces migrants, c'est donc cette récente décision de la Cour suprême israélienne qui dit que ceux qui ont fait la demande, donc dont la procédure est engagée, même s'ils n'ont pas encore la réponse des autorités, ne peuvent plus faire l'objet d'une expulsion. Ce plan, en fait, concerne les hommes célibataires, ceux qui n'ont pas charge de famille et donc, a fortiori, ne concernent ni les femmes ni les enfants. On considère que ceux qui n'ont pas de responsabilité familiale doivent être renvoyés dans leur pays d'origine ou vers un État d'Afrique ou éventuellement le Canada, qui est le pays d'ailleurs qui reçoit à ce jour le plus de migrants africains expulsés d'Israël.
Notre consoeur Aura Silver, jointe à Tel Aviv.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Il est 6h07 à Washington. L'actualité américaine, plus jamais ça, fédérée par ce mot d'ordre répercuté sur les réseaux sociaux, les jeunes de Parkland ont investi mercredi la petite capitale de la Floride, Tallahassee, pour tenter d'arracher un durcissement de la législation sur les armes aux États-Unis après la tuerie qui a fait 17 morts dans le lycée. À Washington, le président Donald Trump a promis des mesures fortes, évoquant même la possibilité extrêmement controversée d'autoriser le port d'armes pour certains enseignants. Toujours à Washington, de hauts responsables de la Maison-Blanche disent que l'administration Trump examine la possibilité d'adopter des sanctions supplémentaires contre la Russie. Elle est également sur le qui-vive, ajoute-t-il, pour une éventuelle ingérence de Moscou dans les élections parlementaires de novembre aux États-Unis. À noter que des républicains et des démocrates ont critiqué le président Trump pour n'avoir pas mis en œuvre les sanctions approuvées par le Congrès contre la Russie pour ses actions de déstabilisation pendant la présidentielle de 2016. L'artillerie du régime syrien a intensément bombardé aujourd'hui la Ghouta orientale, faisant fi des appels internationaux à stopper le bain de sang dans ce fief rebelle où 335 civils, dont de nombreux enfants, ont péri en 5 jours de pilonnage incessant et dévastateur. Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé une trêve immédiate et dénoncé un enfer sur terre dans cette région proche de Damas. L'Allemagne a appelé à faire cesser le massacre. Les ONG se sont dites horrifiées par l'ampleur des bombardements d'une violence inédite depuis le début de la guerre en 2011. Et le Conseil de sécurité devrait voter probablement aujourd'hui sur un projet de résolution réclamant un cessez-le-feu de 30 jours pour permettre l'accès à la Ghouta orientale, sous réserve que la Russie, alliée indéfectible du pouvoir syrien, ne pose pas son veto. Et puis l'opposition vénézuélienne a annoncé hier qu'elle ne participerait pas à l'élection présidentielle prévue le 22 avril, qu'elle juge illégitime et frauduleuse, déplorant notamment les conditions d'organisation du scrutin. Prochaines infos sur VOA Afrique, c'est dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francis. Bon après-midi sur le continent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.